Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les CAPS, ou syndrome périodique associé à la cryopyrine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aspo, qui est touchée par cette pathologie et qui est présidente de l'association AMWS 5A, l'association pour l'aide aux personnes concernées par les maladies rares Muckle-Wells syndrome et 5A. Madame Aspo, bonjour.
Bonjour.
Alors Madame Aspo, pour débuter notre conversation, comment est-ce que vous avez été concernée par cette maladie rare qu'on appelle CAPS ?
Eh bien, quand je suis née, cette maladie familiale n'avait pas de nom. Nous étions 6 à avoir les mêmes symptômes, mais les médecins ne pouvaient pas nous dire ce que nous avions. Nous avons toujours considéré que cette maladie est apparue chez ma grand-mère paternelle. C'est donc mon père qui m'a transmis la maladie. Et puis on vivait avec.
Et comment s'est passée la découverte de la maladie chez votre père ?
Alors en fait, mon père a été hospitalisé en 1974 parce qu'il avait une grave crise. Il ne pouvait plus marcher. C'est alors qu'un interne en médecine générale a diagnostiqué la maladie, le syndrome de Muckle-Wells. C'était un peu par hasard. Hein. Il venait juste d'en entendre parler dans le cadre de ses études. Ensuite, donc il a été hospitalisé 2 semaines environ. Donc beaucoup d'internes et de spécialistes sont alors venus à son chevet pour étudier ce cas qu'il n'avait jamais vu auparavant.
Alors, vous êtes également touchée par cette maladie. Comment est-ce que vous avez été diagnostiquée ?
Donc, j'étais déjà née quand un nom a enfin été donné à notre maladie, mais on parlait seulement d'une maladie héréditaire et que c'était une maladie de sang. On ne parlait pas encore de maladie génétique touchant le système immunitaire. Et j'ai transmis cette maladie à mes enfants. Pour eux, le diagnostic a été beaucoup plus simple. Dès leur naissance, on a su qu'ils avaient la maladie puisqu'ils avaient de l'urticaire dès le premier jour.
Et comment est-ce que ça se passe, la gestion de cette maladie au quotidien ?
Alors, jusqu'en 2007, on ne gérait pas vraiment la maladie. Parce qu'il n'y avait pas de véritable traitement. On a eu plusieurs médicaments qui ont été testés, notamment pour calmer les douleurs rhumatismales. Il n'y avait rien contre les crises d'urticaire. Par contre, il a fallu qu'on porte rapidement des prothèses auditives pour résoudre les problèmes de perte d'audition. On avait un suivi à l'hôpital par des spécialistes, rhumatologues et ORL, c'était tout. Maintenant, il existe un médicament pour notre maladie et cela a radicalement changé notre vie quotidienne. Auparavant, personne ne nous croyait quand on expliquait par exemple nos crises de rhumatisme ou d'urticaire, surtout quand on a 20 ans, par le fait que nous avions une maladie rare. Le concept de maladie rare n'existait pas dans l'esprit de la population à l'époque. Ça a créé des moments quand même assez embarrassants. Mais grâce au centre de référence et de compétences, mes enfants, eux, ont rapidement été suivis par tous les spécialistes concernés. Et les médecins pédiatres de ville qui les suivaient pour le reste étaient en relation constante avec les spécialistes.
Alors, vous êtes aujourd'hui présidente de l'association AMWS 5A. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche ?
Alors, cette association a été créée par mon père en juillet 2006. C'était les débuts d'Internet. Donc, il était entré en contact avec une autre personne atteinte de cette maladie rare qui habitait dans le sud de la France. Donc, ils ont décidé que ça pouvait être bien de créer cette association pour mettre en relation des gens qui étaient dispersés sur le territoire métropolitain. Donc, mon père était président et moi, j'étais la secrétaire de l'association. Et ensuite, j'ai pris la suite de mon père en 2014 parce qu'il a eu un grave accident. Il n'était plus en mesure de poursuivre son œuvre. Il fallait continuer pour garder le lien avec tous les adhérents, isolés chacun dans leur région.
Et quels sont les objectifs et les réalisations de l'association ?
Alors, au démarrage de l'association, nous communiquions avec les adhérents uniquement par messagerie. Nous organisions des assemblées générales de l'association chez mes parents, parce qu'on était vraiment très peu d'adhérents. À partir de 2011, on a créé des week-ends de rassemblement à l'occasion des assemblées générales. Ça permettait aux adhérents, du coup, de se déplacer. Et ces 2 jours permettaient d'échanger entre nous, ce qui permettait de briser l'isolement. Ensuite, il y a eu la création du site Internet. Et enfin, quand des filières de maladies rares ont été créées, et FAI2R nous concernant, l'objectif et les réalisations de l'association se sont développées dans le sens où on a fourni des informations par le site Internet et on est en relation avec FAI2R, notamment pour participer aux diverses sollicitations que les médecins ont besoin, quoi. Notamment, là, la dernière participation en date, c'est une relecture de fiches patients sur un programme de recherche sur la chronobiologie des symptômes.
Eh bien, merci mille fois, Madame Aspo, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les CAPS ou syndrome périodique associé à la cryopyrine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Instagram Rare à l'écoute ou notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette maladie rare. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.